Radio Okapi.
Voici nous ça au pondé pour le journal. Kikwit sinistré après une forte pluie le week-end. Le maire de cette ville sollicite l'intervention du gouvernement central à la suite d'importants dégâts enregistrés. Des briques à base de cobalt exportées frauduleusement comme des matériaux de construction. La révélation est du sénateur Flore Moussendou. Le ministre des Mines promet de vérifier la situation et de prendre des mesures idoines. Notre invitée ce matin est Madame Ba Diallo, porte-parole de la Fondation Mo Ibrahim. Cette fondation vient de publier hier, lundi, son indice 2017 de la gouvernance en Afrique. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par ce cri de détresse du maire de la ville de Kikwit dans la province de Kwilu. La ville de Kikwit est aujourd'hui complètement sinistrée. Lance, impuissant, Léonard Moutangou, des maisons écroulées, des avenues défoncées et les centres-villes inaccessibles. Kikwit a été presque éventré par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville le week-end dernier. Selon le maire, qui parle même de pertes en vies humaines, les dégâts sont considérables et l'intervention du gouvernement central est plus que nécessaire. On l'écoute au micro de Fabien Kambizi.
C'est une image de désolation que présente la ville. La ville de Kikwit, qui comptait déjà plus de 150 têtes d'érosion, est aujourd'hui complètement sinistrée. Toutes les érosions progressent. Les grandes artères de la ville sont couvertes de boue, de sable et même de trous. La seule voie asphaltée qui traverse la ville est dans un état pitoyable. Et il y a des sinistrés, des maisons qui sont parties. Il y a eu même perte en vie humaine. Tout ça, malgré nos efforts, ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce que ça demande des gros moyens. À Kikwit, nous ne savons même pas trouver un engin, une pelle chargeur. C'est difficile. La mairie n'a même pas un ben pour évacuer toutes ces boues. Donc nous lançons un cri d'alarme que le gouvernement central, le gouvernement provincial nous viennent en aide. La mairie, nous sommes en train de faire ce qui est dans nos possibilités, dans notre pouvoir. Mais ça dépasse tout entendement. Il y a des quartiers entiers tels que Kanzombi coupés du reste de la ville par la progression des érosions.
Pendant ce temps, plusieurs travaux de réhabilitation des routes sont à ce jour arrêtés faute de financement. Les projets d'infrastructures réalisés ces derniers jours en RDC sont financés essentiellement par des partenaires extérieurs. C'est ce que révèle le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Thomas Louaka l'a dit hier à l'Assemblée nationale en réponse aux préoccupations soulevées par les députés suite à la question orale avec débat lui adressée par le député Serge Mayamba. La question portait sur le bilan de son ministère dans la réalisation de la vision de la révolution de la modernité initiée par le président Joseph Kabila. Dans sa conclusion, Thomas Louaka a plaidé pour l'augmentation du budget alloué aux ITPR, car selon lui, l'organisation des élections nécessite aussi des routes praticables pour l'acheminement du matériel électoral. Une sollicitation soutenue par l'auteur de la question orale, les députés Serge Mayamba, au micro de Michel Kifindangoy.
Il y a des choses à faire, d'autant plus que le ministère des Infrastructures a initié des travaux, a réalisé des travaux, mais qui nécessitent un suivi. Parce que non seulement certains ne sont pas achevés, il y en a qui sont donc à l'abandon, mais il y a aussi un problème lié à l'entretien de certaines infrastructures qui existent. C'est dans ce cadre-là que nous avons parlé au ministre, et heureusement qu'il nous a annoncé le début des travaux sur la route Sekomaf. Donc, lorsque un ministre a répondu de cette façon-là à votre question, vous devez mettre toute passion de côté, parce que je citerai le cas du Foner, à qui on alloue 100 millions de dollars alors qu'il fallait en avoir 300 millions. Le ministre a repris ce qui a été dit par les responsables du Foner dans différentes commissions parlementaires. Je crois qu'il s'est agi d'un travail sincère, mais il nous revient à nous en tant qu'autorité budgétaire de faire en sorte que ce ministère soit doté de plus de moyens pour permettre à la population de se retrouver dans ses attentes les plus essentielles.
Dans le secteur des mines, plus de 300 millions de dollars américains échappent chaque année au trésor public dans le seul secteur d'exploitation du cobalt dans le Grand Katanga. Des entreprises minières fabriquent des briques à base du cobalt et les exportent frauduleusement en les déclarant comme étant des matériaux de construction. C'est ce qu'a dénoncé le sénateur Flore Moussendou dans sa question orale avec débat adressée au ministre des Mines hier. En réaction, Martin Kaboloulou affirme n'avoir pas été au courant des faits rapportés et promet de prendre des mesures appropriées. Michel Kifindangoy.
Dans ces éléments de réponse, le ministre des Mines rassure que ses services sont bel et bien déployés et contrôlent l'exploitation minière de l'extraction à l'exportation. Martin Kabouéloulou promet cependant de diligenter un audit pour mettre fin aux allégations d'exportation frauduleuse du cobalt.
Une société minière qui exporte en désignant comme nature de marchandises exportées matériaux de construction et que ces matériaux passent sans que les services ne les arrêtent, 15 jours d'ailleurs c'est beaucoup. Cette semaine ici, nous allons prendre des mesures là-dessus. Ça, je vous le promets.
En réaction, le sénateur Flore Moussandou invite le ministre Martin Kabouéloulou à mettre fin à cette fraude pour que les 300 millions de dollars détournés chaque année soient désormais déversés au trésor public.
Les réponses du ministre ont rencontré mes attentes, comme j'ai dit. Je savais qu'il viendrait me dire qu'il n'était au courant de rien. À tort ou à raison, ce n'est pas mon problème. Au moins maintenant, il est au courant. Mon objectif, c'est que ça soit corrigé et que l'État entre dans ses droits et que ma population touche sa part.
Le sénateur Flore Moussandou menace donc de transformer sa question orale avec débat en interpellation si le ministre de Mines ne prenait pas des mesures qui s'imposent dans les 15 jours.
Promouvoir la participation des femmes au processus électoral en cours en RDC, c'est l'objectif principal de l'atelier de deux jours ouvert hier lundi à Kinshasa, organisé par la Commission électorale nationale indépendante et l'ONU Femmes. Ces assises ont pour thème actualisation du plan de mise en œuvre de la stratégie genre et élection de la CENI. Elle regroupe plusieurs structures féminines. Catherine Odimba, chargée de programme participation politique et leadership féminin à ONU Femmes, appelle toutes les femmes de la RDC à se mobiliser pour participer au processus électoral suivant le calendrier publié par la CENI. Elle est au micro de Paul Matendo.
Au-delà de tout l'appui que les différents acteurs pourraient apporter pour plus de participation des femmes, nous avons surtout besoin des efforts collectifs des femmes dans un élan de mouvement féminin fort, dans un leadership fort qui puisse permettre à ce qu'on ait un changement dans le domaine des résultats de la participation des femmes et du leadership féminin. Par rapport à ce plan, nous nous attendons à ce qu'il y ait une mobilisation des acteurs. Les acteurs, ici j'entends la société civile, les agences du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, la CENI elle-même, les acteurs institutionnels, pour appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique qui, en lui-même, va appuyer la participation des femmes à travers différentes composantes.
Toujours dans ce chapitre, la CENCO a publié hier lundi à Kinshasa un rapport d'observation sur l'inscription des électeurs en RDC. C'était en présence du président de la CENI et des représentants diplomatiques. Cette mission a été menée par la commission Justice et Paix Congo qui a déployé 320 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Ce rapport a révélé des points forts et faibles constatés par les opérateurs dans les opérations d'enrôlement pour la CENCO. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs n'ont pas été calés dans un chronogramme publié par la CENI. Des détails avec Askin Zigbiataro.
Dans ce rapport, la CENCO a relevé le manque du chronogramme qui devait servir de boussole pour suivre les opérations d'enrôlement. Pour l'abbé Chole qui a présenté la synthèse de ce rapport, l'absence de ce chronogramme est un point faible qui n'a pas permis à plusieurs parties prenantes au processus électoral de bien suivre les différentes étapes de la révision du fichier électoral. Autre point faible, l'enregistrement de mineurs, monnayage de l'inscription des électeurs par les agents de la CENI et policiers. Abbé Chole, secrétaire général de la CENCO s'inquiète.
Si les mineurs non éligibles à la révision du fichier électoral en cours ne sont pas radiés, la répartition des sièges sera basée sur ces irrégularités et par conséquent, elle ne sera pas honnête.
Le président de la CENI juge pour sa part prématuré la publication de ce rapport. Corneille Nanga.
La qualité du fichier électoral s'apprécie à la fin des tâches prévues pour sa constitution. L'appréciation qui est faite à ce jour est prématurée.
Ce rapport a apprécié aussi la formation qu'ont reçue les agents de la CENI et que l'opération d'enrôlement a été sécurisée par les forces de l'ordre. Sachez que ce rapport couvre une période allant du 28 août au 12 novembre 2017.
Et puis l'opposant Franck Diongo ne saura pas être inscrit sur la liste électorale à partir de sa cellule de détention à la prison de Makala. Le président de la CENI l'a expliqué hier lundi au cours même de cette publication du rapport d'observation l'observation de la Synco sur l'inscription des électeurs en RDC. D'après Corneille Nanga, un centre d'inscription des électeurs a été ouvert pour les détenus dans cette prison. Mais, ajoute-t-il, ce centre a fonctionné dans un régime particulier qui ne dépendait pas de l'ASENI, ce qui n'a pas permis à la commission électorale d'enrôler Franck Diongo, contrairement à l'opposant prisonnier Jean-Claude Muyambo, qui lui a été enrôlé. Corneille Nanga explique au micro d'Askinzik Biataero.
Au niveau des prisons, nous avons une procédure spécifique d'identification et enrôlement des électeurs. Ce que nous recevons comme électeurs, ce sont les gens ou les requérants mis à la disposition de la CENI par les greffes. Et notre président de centre d'inscription au niveau de Makala, c'est justement l'un des greffes de la prison. C'est lui qui a mis à notre disposition la liste de plus de 900 personnes. Et nous les avons inscrits. Il se fait néanmoins qu'à deux reprises, M. Franck Diongo s'est pointé lui-même devant notre centre d'inscription. Mais c'est la police interne qui est venue lui dire que non, il n'était pas éligible, encore que son nom n'était pas sur la liste de ceux qui étaient éligibles. Le nom de Maître Muyambo était sur la liste nous donnée et nous l'avons inscrit. La réponse qui nous a été donnée, c'est que le cas de Maître Muyambo, c'est un cas où il a été condamné à une première instance et qu'il a interjeté appel. En interjetant appel, il n'est pas donc condamné définitivement. Mais le cas de Franck Diongo, par contre, il est condamné à la dernière instance par la Cour suprême de justice. Ni appel, ni quoi que ce soit, plus rien ne tient, donc il est condamné.
Toutefois, ajoute Corneille Nanga, si Franck Diongo retrouve sa liberté après, il pourra s'inscrire sur la liste électorale le jour du dépôt de sa candidature à des différents scrutins de son choix. En bref, le nouveau projet de loi électorale a été déposé hier par le Premier ministre au bureau du président de l'Assemblée nationale pour examen et adoption dans les deux chambres du Parlement. D'après Bobin Minaku, ce projet de loi sera examiné en priorité en dépit du calendrier déjà très chargé et ce dans les 25 jours qui restent avant la clôture de cette session parlementaire essentiellement budgétaire. Pour le Premier ministre Bruno Tshibala, le dépôt de ce projet de loi au Parlement marque un grand pas vers les élections et une détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour parachever le processus. Direction province de la Tchopo, une trentaine de policiers s'est rendus hier, lundi, au quartier général de la MONUSCO qui s'en gagne pour dénoncer le non-paiement de leur traitement mensuel. Ils affirment n'avoir pas été payés depuis la fin de leur formation en août 2015. Par conséquent, souligne-t-il, ils se retrouvent dans l'impossibilité d'assurer la prise en charge de leur famille. Ils ajoutent ne pas comprendre comment 10 d'entre eux seulement ont pu être payés sur le 1750 qui seraient concernés par cette situation. Ils l'ont dit au micro de Jacques Moukonkolé.
Les petits paies que le gouvernement nous envoie, nous en avons besoin de ça. Mais nous constatons que nos autorités de la PNC, de la garnison de Kisangani, il y a certains éléments qui perçoivent de l'argent auprès de la TNB depuis mois de mai. Mais nous, on nous a donné les matricules, mais nous ne recevons pas cet argent-là. Mais nous prions au gouvernement central, y compris les autorités provinciaux, de nous aider pour que ce mois de novembre qui nous donne notre argent. Parmi nous, il y a des responsables. Nous avons des enfants qui étudient. Nous avons des maisons que nous louons. Et le gouvernement n'a pas de logement pour que les éléments puissent habiter quelque part. Mais pour le moment, nous réclamons au gouvernement de nous payer ces mois. C'est déjà 2 ans et 6 mois. Nous ne recevons pas de l'argent depuis que nous sommes sortis du centre de la formation Kapalata.
Une source proche de l'inspection provinciale de la police affirme que cette situation ne concerne pas seulement les policiers de la Tchopo, mais qu'elle est générale et sera résolue progressivement. Toujours d'après elle, ayant été dotés de numéros matricules, preuve de leur reconnaissance officielle dans le corps de la police, ces éléments finiront par être payés. La source les invite à la patience. À Bounia, un homme a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel au quartier Lumumba samedi dans la soirée. Selon la police, la victime est un haut cadre d'un service étatique qui s'est rendu dans cet établissement avec une femme qui s'est volatilisée dans la nature. La cause de sa mort n'est pas encore connue, tandis que 3 personnes, dont les gérants de l'hôtel, sont aux arrêts pour raison d'enquête. Marcel Kiza explique dans ce reportage.
L'incident se déroulait vers 18h aux alentours du rond-point final au sous-quartier Yambiaïa. Selon un témoin rencontré sur place ce lundi, cet homme s'est présenté à l'hôtel le samedi avec sa compagne sur une moto. Le gérant de l'hôtel leur a donné tout de suite la clé d'une chambre car ses cadres étaient un habitué du lit. Ce n'est que 2 heures après que le corps inanimé de la victime a été retrouvé par le gérant dans la même chambre. La femme qui l'accompagnait avait déjà quitté les lits sans informer l'hôtelier. L'homme a été vite conduit dans un hôpital proche qui n'a fait que constater le décès. Arrivé sur place, la police a arrêté 3 personnes, dont le gérant de l'hôtel. Les porte-parole de la police indiquent qu'une réquisition à médecin est déjà faite pour pratiquer l'autopsie du corps. Cependant, les services de renseignement civil croient savoir de prime abord qu'il ne s'agit pas d'un crime pensionnel. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Manifestation de plusieurs organisations de la société civile devant l'ambassade de la Libye à Ouagadougou. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur a exprimé l'indignation de son gouvernement aux autorités libyennes face aux images qu'il a lui-même qualifiées de traite négrière, des images d'un marché aux esclaves diffusées par la chaîne américaine CNN et qui ont causé une vague d'émotion mondiale. Le Burkina Faso a décidé donc de rappeler son ambassadeur à Tripoli pour consultation pour dire toutes l'indignation de son gouvernement, également condamner ce qui se passe en Libye et élever la protestation contre ces images. Le président sud-africain et président en exercice de la SADC, Jacob Zuma, a pris hier lundi la direction de l'Angola pour un sommet extraordinaire à Luanda de la Troïka de l'organisation sous-régionale qui comprend l'Angola, la Zambie et la Tanzanie pour tenter de trouver une porte de sortie à la crise zimbabwéenne. Les pays qui seront représentés dans cette réunion ne veulent pas de coup d'État sans sanctions.